Mais regardez donc vos montres à gousset et autres montres connectées. Mon Dieu, il est 20h sur Radio G. Bienvenue sur Radio G 101.5, parce que figurez-vous, eh bien, que c'est Quasar on the Air. Aujourd'hui, une émission qui va nous permettre d'aller comme ça à travers la France, toujours et encore à la découverte d'associations. Et aujourd'hui, eh bien, nous irons dans le Pas-de-Calais à Arras et aussi dans le Limousin à Limoges très précisément pour découvrir l'association Limbo. Alors pourquoi Limbo ? Bah, tout simplement parce que nous avons des amis là-bas qui ont quelques difficultés, qui veulent créer un centre LGBT et nous entretiendrons avec elles.
À une de ces vitesses, quoi? Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire la story qui t'était dédiée. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Hier encore on était liés. J'étais celle de tes rêves. Ce qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais, c'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher, c'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier, c'est oui ou bien c'est non. Pourquoi tes j'aime comptent plus que ceux des autres? Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube? Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes? Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges.
Titre déjà qui date il y a quelques années, mais oui ou non, on reconnaît bien le style de la toute belle Angel. Allez, nous ouvrons l'agenda dans l'émission, comme d'habitude, pour vous dire que, eh bien, nous sommes déjà au samedi 25. Alors, samedi 25, samedi prochain, vous notez bien des temps forts pour Quasar. Dès 10h du matin, ce sont les cours de français sur inscription pour les personnes demandeuses d'asile, par exemple, ou toute personne étrangère LGBTI qui a besoin de se parfaire la langue. Et c'est avec Sylvia. Attention, permanence 15-25, mais horaire modifié. Le rendez-vous aujourd'hui, enfin ce samedi 25 plutôt, sera à 10h du matin, exceptionnellement 10h-12h pour la permanence 15-25. Pourquoi ? Eh bien parce que à 16h, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous avez rendez-vous devant la mairie pour la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. Et c'est une manifestation, d'abord le rassemblement devant la mairie d'Angers. Et ensuite, une marche à travers les rues d'Angers, c'est à 16h. Et puis à 17h à Quasar, la permanence hebdo. Vous notez aussi sur votre agenda le mercredi 29 décembre à 19h, une rencontre spéciale avec l'association Bicause. Il sera question de bisexualité, de pansexualité. Les personnes bipans seront toutes et toutes les bienvenues. Avec l'association Bicause, association nationale, il y aura entre autres une projection de documentaire suivie d'une discussion et surtout la présentation du rapport d'enquête sur la biphobie et la panphobie que Bicause a mené avec d'autres assos. Notez bien toujours les permanences en semaine de Quasar du lundi au vendredi de 14h à 19h. Vous venez sans rendez-vous, avec rendez-vous, c'est comme vous voulez. Samedi 2 décembre, nous passons déjà au mois de décembre, comme ça va vite, à 10h cours de français individuel et à 14h cours collectif avec comme pour thème la renaissance et puis à 17h la permanence. Mercredi 6, vous notez agenda 17h la permanence juridique. Vous avez des difficultés dans votre vie quotidienne, vous êtes injurié, vous êtes victime de discrimination, de violence, vous venez nous voir, on vous aide et on trouve une solution. À 18h30 ce mercredi 6, il y aura la réunion du conseil d'administration de Quasar. Le samedi 9, de 10h à 12h, attention, un temps formel et de formation par la protection juridique sur les gestes qui sauvent dans la vie de tous les jours. Temps offert et formation gratuite pour les demandeuses et demandeurs d'asile. À 14h, cours collectif avec la construction de la phrase. Et puis à 17h, eh bien, la permanence hebdo. Vous notez bien, attention, temps spécial à partir de mercredi 13 décembre. C'est le rendez-vous avec Grey Pride, l'association nationale qui s'inquiète et qui se charge des questions du mieux vieillir LGBTI+. Un rendez-vous à 14h, ce sera une rencontre interprofessionnelle sur la vieillesse LGBTI en EHPAD et en maintien à domicile, uniquement pour les professionnels qui seront informés, et une réunion publique à 19h, tout public justement, pour le vieillir autrement, vulnérabilité et résistance LGBT. Comment les seniors LGBTI prennent en main leur vieillesse. Le lendemain, toujours Grey Pride sera de la fête et invité par Quasar, avec à 15h une présentation
de l'exposition de Pascal Champenois avec plein de dessins, plein de photos, de corps vieillissants mais nus de personnes qui ont accepté de poser pour donner un autre regard sur la vieillesse, y compris LGBTI+. Et puis à 19h30, à Quasar aussi, toujours, une projection de documentaire qui a pour titre « Pour la vie » avec encore la présentation des deux réalisatrices qui seront présentes et un dialogue intergénérationnel. Le vendredi 15, les tableaux de l'exposition de Pascal Champenois seront toujours visibles à Quasar de 10h à 19h et à 20h il y aura le vendredi 15 la conviviale et puis samedi 16 et on s'arrête là, cours individuel à 10h, 14h un travail de cours de français mais pour une traduction du Petit Prince en sous-sous et puis comme d'hab à 17h eh bien ce sera la permanence hebdomadaire. Dans quelques instants, notre premier invité, mais tout de suite, Eddy de Préto avec le titre « Maison ». Très belle soirée sur Radio G, Quasar on the Air, l'émission de Quasar, le centre LGBTI+ d'Angers.
Dernière soirée sur le banc d'essai, tu m'avais dit on n'est pas des chiens, on se parle bien jusqu'à ce qu'on se laisse. Après ça, on deviendra plus rien. On était beau pourtant, on s'aimait jusqu'à temps que tu me sortes tes chaînes amour et me sang jusqu'au sang. Si tu veux, laisse-moi, n'en rajoute même plus. Je préfère faire cavalier seul que jouer la belle au seum perdu. Car j'ai trop de fois tort, penser comme toi à mort que l'amour me sauverait enfin et me sortirait de mes remords. Cette nuit, la vie m'offre la chance que tu partes enfin. Je prends soin de fermer la porte, je sais que tu ne pars jamais loin. Si le silence que j'entends, il est là, c'est dans le bruit qu'il se cache ce soir au pied du mur. Oh. Ça sent le vide dans la maison, bien trop le vide, c'est pour de bon. T'as pris valise pour tes raisons. Et si tu restes, je resterai toujours libre de toutes les façons. Vite dans la maison, bien trop le vide, c'est pour de bon. T'as pris valise pour tes raisons. Et si tu restes, je resterai toujours libre de toutes les façons. Je t'ai donné le cœur, t'ai donné les mots, même quelques rancœurs. Si seulement c'était assez, tu m'as donné le fouet, m'as dit que j'étais bon, qu'à aimer dans la douleur. Si seulement tu savais que même après tous les cris, que même après tous les pleurs, ouais, t'auras tout vu de ma vie, toute ma vie en couleur, ouais, que même après tout le sang, même après toute la sueur, tu as tout vu de moi. Mais jamais mon bonheur, ça sent le vide dans la maison. Bien trop le vide, c'est pour de bon. T'as pris valise pour tes raisons. Et si tu restes, je resterai toujours libre de toutes les façons. Vide dans la maison. Bien trop le vide, c'est pour de bon. T'as pris valise pour tes raisons. Et si tu restes, je resterai toujours libre de toutes les façons. D'accord, c'est l'heure de compter mes bleus. De se dire qu'on est devant la fin. Je ne pourrai jamais faire mieux. J'ai déjà usé de tous mes refrains. On était beau pourtant. Je t'aimais jusqu'à 100.
Eddy de Préto sur son nouvel album, album qui vient de sortir et ce titre extrait qui s'appelle Maison et il est toujours de notre maison. notamment les autres fois nous passions Love and Tendresse. On le repassera, hein, ne vous inquiétez pas, mais voilà, on change un peu sur les nouveaux titres d'Eddie De Pretto. Allez, 20h15 très précisément, nous accueillons notre premier invité de la soirée. Il s'apprénomme Romain, de son nom Eke, et il est le directeur de Fierté Pas-de-Calais. Bonsoir Romain.
Salut.
Alors, dis-nous tout, Fierté Pas-de-Calais, c'est un centre LGBTI, c'est quoi exactement pour bien situer l'association ?
Alors, l'association Fierté Pas-de-Calais existe maintenant depuis une dizaine d'années, qui est basée donc sur la ville d'Arras et donc à rayonnement départemental. Et depuis un an maintenant, on a donc ouvert le premier centre LGBT du département.
D'accord. Alors, une question immédiate, Pas-de-Calais, avec les intempéries, est-ce que vous avez été touché, vous, récemment, avec tout ce que le Nord et le Pas-de-Calais a subi ?
Alors, nous, ça va, on a relativement de la chance quand même sur Arras, où comme c'est une ville qui est en hauteur, on n'a pas trop de problèmes. C'est plus le littoral du côté de Calais, Boulogne-sur-Mer, qui malheureusement, ouais, les copains-copines, eux, par contre, ont subi de gros dégâts. Ouais.
D'accord. Est-ce que vous avez des antennes dans le département ? Est-ce que vous ouvrez des temps dans d'autres villes que à Arras ?
Oui, tout à fait. Alors, on a deux antennes qui sont structurées sur la ville de Béthune et la ville de Boulogne-sur-Mer.
Oui.
Donc, un peu plus sur les terres et l'autre sur le littoral. Et ensuite, on fait également des permanences sur deux autres villes que sont Lens et Saint-Omer.
D'accord. Alors, Fierté Pas-de-Calais, donc... peut expliquer le nom, je suppose, fierté pour la visibilité et le fait de revendiquer qui l'on est, ce que l'on est, et revendiquer de nouveaux droits, je suppose.
Oui, voilà, c'est tout à fait, c'est exactement ça. Ça vient aussi du fait qu'on organise le Festival des Fiertés, la Marche des Fiertés. Voilà, on a voulu un nom un peu plus générique, puisque de nature, le nom de l'association était beaucoup plus très très local sur la ville d'Arras.
Oui.
Et comme on a développé l'association sur le département, on a voulu un nom qui parle et qui soit commun un peu à tout le monde. Et donc, du coup, on est parti, oui, effectivement, sur simplement fierté, la fierté d'être qui nous sommes et qui on a envie d'être. Et Pas-de-Calais, bah, forcément, pour le territoire, tout le département.
Alors, Fierté Pas-de-Calais, un centre LGBT. On rappelle ce que c'est qu'un centre pour vous et votre définition que vous donnez avant qu'il y en ait, on l'espère, une un peu juridiquement reconnue des centres, vu les difficultés dans certains coins avec certaines bagarres sur l'appellation centre LGBTI+.
Alors tout à fait, nous comment on le définit, en tout cas la nature qu'on donne à notre lieu, c'est avant tout un espace de vie. C'est un espace de vie, c'est un espace de rencontre, un espace de convivialité qui permet à des personnes qui peuvent être isolées, rejetées en questionnement, discriminées, de se trouver dans un lieu qui est safe, avec des personnes de confiance, en sécurité. Ça, c'est la base première. C'est aussi, pour nous, un lieu de travail, puisque ça permet de permettre aux bénévoles de pouvoir se rencontrer et de travailler aussi dans un lieu qui soit dédié, de permettre de rencontrer aussi d'autres structures associatives, les institutions, et du coup de pouvoir faire émerger telle une pépinière des idées et des projets d'action à mener sur le territoire. Et puis en finalité, nous dans notre local, on a cet espace aussi culturel et convivial avec un bar associatif qui permet forcément d'avoir un petit peu d'autofinancement pour mettre d'acheter du matériel, d'acheter du mobilier, un petit peu de déco là comme c'est bientôt la période de Noël, et puis un espace plus culturel avec une bibliothèque LGBT+++ très large qui est assez unique aussi dans la région puisqu'il n'y a pas de ce type de bibliothèque par exemple, dans la région Hauts-de-France.
D'accord. Et pour ce qui concerne l'aspect organisationnel, vous avez un local dont vous payez le loyer, qui est mis à disposition par la municipalité. Comment est-ce que vous vous êtes organisé de ce point de vue ?
Alors, à ce statut-là, nous, on a eu la volonté, du coup, de passer par le privé. Voilà, nous, on paye effectivement un loyer à des propriétaires. Disons que c'est un peu compliqué déjà par la municipalité, dans le sens où ils sont assez pauvres en locaux et qu'on voulait forcément des locaux qui nous sera dédié, où on peut justement gérer de la façon dont on veut et sachant tous les outils qu'on met à disposition, c'était très compliqué d'avoir un local municipal et aussi par volonté politique, puisque ben voilà, quand tout va bien avec la municipalité, ben voilà, ça c'est facile. Mais le jour où il y a des conflits, ben voilà, ça peut poser problème, peut y avoir des litiges, des conflits d'intérêts. Et donc, certes, on paye un peu plus cher, mais comme on dit, on achète un peu aussi la paix sociale, quoi.
D'accord. On rappelle qui était votre précédent ou pré-précédent maire à Arras ?
Alors, d'aussi loin qu'on s'en souvienne, c'est toujours le même. Donc, c'est Frédéric Le Turc. Ça fait à peu près une dizaine d'années qui trône sur son siège, clairement. C'est un maire qui est quand même plutôt cool, qui soutient quand même de façon générale. Hein, après, nul n'est parfait. On ne prétend pas qu'il est parfait, mais on a quand même de la chance ici, nous, d'avoir quand même un maire qui soutient.
D'accord. Pour ce qui concerne Fierté Pas-de-Calais, puisque je rappelle que nous recevons Romain Ekek, qui est le directeur de l'association, vous comptabilisez à peu près combien de bénévoles et combien d'adhérents, si ce sont, ou des usagers, parce que ça peut être des situations différentes.
Alors, en termes d'effectifs, clairement, on est nous à peu près un peu plus entre 60 et 70 adhérents. Si on compte en force vive, hein, clairement, faut compter une bonne vingtaine de personnes.
Oui.
Vraiment des actifs, des habitués, que ce soit au centre, mais aussi sur les antennes. On a un salarié, donc depuis novembre, qui est moi. Qui avant était, j'étais donc président et fondateur de l'association et voilà, j'étais pendant 10 ans à ce poste, dont j'ai eu l'honneur et le plaisir de pouvoir justement céder ma place à une jeune équipe qui reprend du coup le flambeau avec brio, et du coup je suis passé en salarié moi à l'association depuis un mois.
Bon, on a évoqué la situation politique, la situation financière. Vous recevez, vous répondez à des appels à projets d'ILCRA, vous avez eu du fonctionnement du financement de fonctionnement. Comment est-ce que ça s'est passé à Fierté Pas-de-Calais?
Alors, comment nous ça s'est passé? Effectivement, on a les appels à projets d'ICRA, un classique tous les ans, que tout le monde peut faire, en tout cas toute association LGBT qui porte des projets de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ça je vais pas refaire le truc. Effectivement, on a également eu l'aide, la subvention d'urgence de la DICRA l'année dernière au titre des centres LGBT. Voilà, donc ce petit fonds qu'on a, qu'on laisse en tout cas mûrir sur nos comptes, puisqu'on a nous décidé de l'utiliser en partie comme fonds d'urgence. Si demain, voilà, on avait un problème, une perte de subvention, voilà, il peut arriver plein de choses. Donc ce fonds-là, on le garde de côté au cas où. Et d'un autre côté, financièrement, ça va, on est plutôt correct, puisque on a plusieurs municipalités qui nous soutiennent. On a aussi les communautés d'agglomération qui soutiennent également aussi au local sur des actions. On a le département du Pas-de-Calais qui maintenant soutient plus que correctement l'association. Au niveau régional, bon, là, faut pas trop compter, hein.
Mais
enfin, on a une région qui est quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, chez Xavier Bertrand, et on sait très bien qu'il est hyper friendly, hein.
Oui.
Bien sûr, c'est très humoristique.
Oui, voilà, c'est sarcastique.
voilà, carrément, hein, carrément. Donc, non, forcément, on n'est pas prêt, je pense, d'avoir une quelconque aide de la région pour le moment. Et comme on nous a dit, d'aller chercher des alliés à la région, bah, la seule opposition qu'il y a, c'est du RN qui est mené par Marine Le Pen.
Oui.
Donc, bon. Voilà. Je pense que la région, on peut laisser tomber pour le moment.
C'est ça, on est d'accord. Il y a d'autres régions où ce n'est pas possible non plus. On connaît la nôtre, qui est célèbre, pas pour la même circonstance, mais pour une autre étiquette politique. Ancien président, évidemment, le sénateur chef LR au Sénat. Bref, pour ne pas le citer. Et une continuité dans la longueur du mandat de la nouvelle présidente. Bref, les projets principaux, il nous reste une petite minute. Quelles sont vos priorités pour le développement de Fierté Pas-de-Calais?
Alors, les développements premiers, ça sera avant tout de développer de nouvelles antennes, des antennes existantes et des nouvelles antennes, puisque comme on a un territoire qui est assez densément peuplé avec beaucoup de villes de taille moyenne, hein, de villes qui sont entre 20 et 60 000 habitants, et ce, il y en a plus d'une dizaine dans le département. Donc, forcément, qui représente beaucoup de bassins de population, des bassins où malheureusement il n'y a pas de visibilité. Et notre objectif premier, c'est avant tout de, voilà, d'aller s'implanter dans ces territoires où il n'y a pas de visibilité, de reconnaissance LGBT. Et puis, d'une autre part aussi, un peu plus professionnaliser nos actions de terrain.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup et bonne soirée. C'était Romain Ecquet, directeur de Fierté Pas-de-Calais. Et on vous souhaite bon vent, pas de tempête, hein, mais bon vent de continuation.
Évidemment. Merci à vous les amis, merci.
Merci, au revoir Romain.
Salut.
Bon, après un gentil garçon comme Romain, voici les méchantes filles, les vilaines, les bad girls avec Donna Summer. Angers. Angers, Quasar, 101.5, Radio G, vous êtes bien. considérée comme la reine du disco, vont sur la fin avec des paroles quand même assez homophobes par rapport à la paroisse, à sa foi et tout. C'était quand même Donna Summer qui nous a fait danser, on en profite bien. Et on n'oublie pas ce qu'elle a dit, mais on reste fidèle à l'esprit de ses chansons. Et puis pour être fidèle aussi aux amitiés et aux personnes qui comptent, je voulais juste faire un petit aparté très rapide pour signaler la mémoire de Jacques Arnaudot qui est décédé lundi dernier et qui a été un des fondateurs de Radio Gribouille 1981 et qui nous a quittés donc lundi dernier. Alors pour Quasar, eh bien deux raisons de saluer sa mémoire. D'abord parce que nous sommes sur Radio G et que nous remercions tous les fondateurs puisque cela nous permet d'avoir une parole sur le Maine-et-Loire en tant qu'association LGBTI+. Et puis c'est dire aussi que pour moi, Stéphane Corbin, qui vous retrouve tous les 15 jours sur cette antenne, bah c'est aussi un petit pincement au cœur parce qu'on ne se connaissait pas directement avec Jacques, mais nous avons été de l'aventure des radios libres de 1981 sur Angers. Moi je n'étais pas à Radio Gribouille, j'étais à Angers 101, mais évidemment nous étions des précurseurs, non pas en tant que moi-même fondateur d'Angers 101, mais en tant qu'animateur et bénévole à l'époque et puis ensuite salarié. Donc voilà, quand quelqu'un qui a œuvré pour la radio libre nous quitte, ben c'est toujours bien de le saluer. De saluer également et de faire une très très grosse bise à Christelle qui est adhérente de Quasar et qui vient donc de perdre son mari, et on l'embrasse bien fort ainsi que tous les membres de sa famille et notamment ses enfants. Quasar en hier se poursuit, il est 20h31 et nous accueillons Evelyne au téléphone. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Stéphane.
Alors on
Bonsoir
est heureux. Angers. Bah oui, alors c'est Angers qui salue Limoges et Limoges qui salue voilà. Angers. Alors des fois moi je passe vous voir, mais pas tout à fait Limoges, Boisseuil, mais c'est pas très
et
très
grave. Voilà. Voilà. Mais je suis à Boisseuil et tu ne passes pas nous voir nous. Ce n'est pas voilà. Bien.
Mais maintenant j'ai plus d'occasion de m'excuser de ne plus passer. Il faudra que je passe. Bien. Alors. Vous êtes, vous, avec André, les personnes qui portaient, toi tu es la trésorière, vous portez Limbo. Alors Limbo, on peut réexpliquer pourquoi LIM'BOW comme nom d'association?
Tout simplement Lim de Limoges ou Limousin, et Beau, ben, le diminutif du rainbow, du drapeau LGBTI+.
Voilà, voilà. Donc, c'est une contraction et qui donne le nom de l'association. Alors, vous existez voilà. Depuis combien de temps en tant qu'association à Limoges et du côté de Limousin?
Le collectif Limbo a été créé en 2011. Mmh. Et nous sommes devenus officiellement centre LGBTI+ Limbo cet été, après le dépôt des statuts à la préfecture. Donc c'est une grande étape. Maintenant reste la seconde, que ce centre LGBT ne reste pas que des mots, mais devienne une réalité de terrain.
Alors, quand tu dis ça, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'il faut comprendre très exactement? Parce que je suppose que derrière, il y a une réalité avec quelques difficultés.
Avec beaucoup de difficultés. J'entends par là que le Limousin est une terre relativement hostile à la manifestation de son homosexualité ou de sa transidentité. Nous avons beaucoup de difficultés, notamment avec la préfecture. Donc, tout est compliqué. Pour faire déjà des demandes de subventions, après pour les obtenir, nous ne sommes pas entendus. C'est comme si nous n'existions pas, à se demander jusqu'où va cette absence de contact. Est-ce que c'est une incompétence ou est-ce que c'est une réelle volonté? J'ai ma petite idée, mais voilà. Bon, pour l'instant, c'est très fatigant de lutter contre contre le silence.
Alors, ce que vous décrivez est quand même relativement grave et sérieux. C'est-à-dire que, pour parler clair, est-ce que vous avez reçu, comme nombre de centres LGBTI, l'appel à projet pour les...
Pas du tout.
Vous n'avez pas du tout reçu de votre préfecture les appels à projet?
Non, on ne l'a pas reçu. Et j'en parlais avec notre cher trésorier de la Fédération LGBT+,
Jean-Loup,
hier, Jean-Loup, qui me disait, mais Evelyne, ils ne sont pas obligés de les envoyer, nul n'est censé ignorer la loi, donc c'est aussi à nous d'aller chercher cet appel à projet sur le site gouvernemental.
Oui, sauf que Jean-Loup est gentil, et il a raison d'une certaine façon, mais oui et non, c'est-à-dire que les préfectures se doivent d'être en contact avec les centres, c'est la politique actuelle, voilà. Et il n'y a aucune raison que le Limousin fasse défaut à la règle.
Oui. Le problème, si tu veux, c'est que nous avions une femme extraordinaire qui était notre référente d'ILCRA à la préfecture, et elle a été mutée dans d'autres fonctions il y a maintenant 3 ans. Mmh. Il n'y a jamais eu personne de nommé à sa place, et depuis, c'est terrible, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On n'est pas entendu, on envoie un mail, on n'a jamais de réponse, on envoie un courrier, on n'a jamais de réponse, le mail n'est jamais arrivé, le courrier non plus.
D'accord.
Vraiment, franchement, tout est fait pour nous essouffler et qu'on abandonne.
C'est quand même grave comme situation, mais je pense qu'on va être quand même un certain petit nombre à réagir et à faire en sorte que vous soyez entendus, je n'en doute pas. Alors, si on revient maintenant avec les activités que vous avez, vous, mises en place, il y a eu une marche récemment, me semble-t-il.
Oui, nous avons eu notre marche au mois de septembre. Mmh. C'est la deuxième à Limoges. Hein. Mmh. Ma foi, cette marche s'est pas trop mal passée. On était à peu près 2300 participants. Malgré tout, il y a eu des bémols, hein, puisque des groupuscules d'Action française sont venus à plusieurs reprises nous menacer pendant le défilé. Il y a eu des dégradations du camping-car qui servait de stand pour la vente des goodies. Mmh. Il y a eu la dégradation d'un passage piéton arc-en-ciel. Il y a eu le vol de notre banderole. Il y a eu quand même un certain nombre. Ah oui, puis j'oubliais, à la soirée de l'after, il y a eu des jeunes gazés et attaqués à la sortie de l'after par des groupes d'individus masqués.
Et que dit la préfecture et les services de police par rapport à ça ?
Elle dit rien. Elle dit rien.
C'est bien problématique.
Elle dit rien. Mmh. On a déposé plainte. Hein, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais comme par hasard, les caméras ne montrent jamais rien.
Oui, on est bien d'accord. On connaît ça.
Mais on n'est pas soutenu, on n'est pas aidé. Il y a pas d'enquête, quoi. Soyons clairs.
D'accord. Et autrement, la participation à 2000 et quelques personnes, cela vous a renforcé quand même et plu, je suppose.
Oui. Oui, mais c'est vrai que j'essaye de voir les choses positivement. Je me dis, bon, tout ce qui s'est accumulé là cette année comme ennui veut dire que ça y est, les gens sont au courant qu'on existe.
Oui.
Et ils se sont mobilisés pour nous attaquer. Voilà, j'essaye de positiver.
Oui.
On fait ce qu'on peut.
On peut dire aussi, Evelyne, que ça va permettre aux personnes concernées de se mobiliser aussi pour faire avec vous et venir en renfort, parce que du renfort, vous en avez besoin, je suppose.
On en a énormément besoin, mais pour l'instant, nous n'arrivons pas à bouger les Limousins pour venir faire la fête ce jour-là. Ils sont tous contents, tous d'accord. Une fois qu'on leur dit venez donner un coup de main, même un petit peu, tout le monde s'envole partout et tu trouves plus personne, quoi. Mmh. Hein, donc et ça c'est terrible parce que à un moment donné. C'est ce qu'on explique aussi. Bon, on n'est plus toutes jeunes, hein, avec André, mon épouse. on n'arrive même plus à partir en vacances, quoi. Tellement on est coincé par.
Oui, mais là, il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous. J'espère que les fêtes de fin d'année, vous allez pouvoir aussi vous reposer. Hein, laisser les choses.
Oui,
il faut que vous preniez du temps pour vous.
C'est quand même très, très décevant. Je ne sais pas s'il y a une formule magique, mais c'est vraiment très décevant, Lingzhi.
Non, tu les.
Alors, ça, ils sont très forts pour te dire ah, c'est bien ce que vous faites. Hein. Ah,
c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant.
Oui, mais on n'en a rien à faire. On ne fait pas ça pour des compliments.
Non.
On fait ça parce qu'il faut le faire ensemble. Nous, on se bat pas pour nous, notre vie est faite. On se bat pour vous, les jeunes. Mince. Alors, bougez-vous, comprenez que si les droits que vous avez actuellement, vous les avez parce qu'on s'est battu, nous, depuis des dizaines d'années.
Voilà.
Hein, et que si vous ne vous battez pas pour les conserver un jour ou l'autre, on va vous les reprendre.
Eh oui.
Mais ils n'ont pas conscience de ça.
Ben,
ils n'ont pas conscience de ça.
Il faut qu'on vienne en parler avec eux, alors. Il faudra qu'on vienne vous soutenir.
Ils n'ont pas connu les luttes et du coup, ils n'imaginent pas que des droits peuvent être retirés aux gens.
Retirés. Je vous embrasse toutes les deux, André et Evelyne. Merci d'avoir...
Merci Stéphane.
Grosse bise.
Merci André. La bise à tout le monde.
Allez, ciao. Belle soirée à vous deux.
Ciao.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Il s'appelle Topka Sigissa, on l'a déjà entendu sur Radio G dans Quasar Hans hier. Plus qu'une devise, écoutez bien.
Né dans un pays qui n'aime pas ce que je suis la guerre qu'il fait aux incompris. Je me suis réfugié là où l'amour est libre. Liberté, égalité, fraternité, plus qu'une devise. Gênant pour ma mère, j'ai l'empêché de refaire sa vie. Dans ma famille adoptive, j'ai rencontré mon ami. Le même âge, les mêmes envies et le même lit. 10 ans d'histoire à ses côtés, plein d'histoires pour se réjouir. Pour se réjouir. Pour se réjouir. Il a suffi que notre amour ne soit plus à l'abri, pour que pleuve le coup et les insultes jaillissent. Nulle part où aller, étranger dans ma patrie, même plus envie de prier, sans famille et sans appui. Né dans un pays qui me dit satanique, où l'ignorance et la bêtise augmentent les périls. Je me suis réfugié là où l'amour est libre. Liberté, égalité, fraternité, plus qu'une devise. Sur le trottoir qu'ils me servaient de lit, ils m'ont dit hey, c'est toi qui couches pas avec les filles. Alors ils m'ont abusé et torturé cette nuit. Et dans mon sang, ils m'ont laissé une maladie. Cette fois j'ai pu me relever, bafoui et meurtri. Tandis que mon ami subissait la haine de sa famille. Alors nous nous sommes retrouvés pour s'évanouir. S'aimer sans être menacé, juste vivre. Juste vivre. Juste vivre. Né dans un pays loin d'être homophile, où tu es un gay, il n'est même pas puni. Je me suis réfugié là où l'amour est libre. Liberté, égalité, fraternité, plus qu'une devise. Des ans à dormir sur des pierres, il me fallait l'argent pour traverser. J'ai dit manger et j'en suis pas fier. Mais j'ai pu m'échapper, enfin espérer arriver seul. Mon ami n'a pas touché terre, même plus de larmes pour le pleurer. Mais reste un petit sac et quelques papiers. En France, je suis venu me refusier. J'ai entendu liberté, égalité, fraternité. Ce n'est que de ça dont j'ai rêvé. Dont je rêve. Dont j'ai toujours rêvé. Liberté. Égalité.
Plus qu'une devise sur Radio G, c'était Topka Sigissa, un ami de Quasar, et qui a enregistré avec les moyens techniques de Quasar ce titre. Et on aime bien vous le passer parce que c'est en soutien à tous les demandeurs et toutes les demandeuses d'asile. Et quand on sait le projet de loi qui va bientôt arriver à l'Assemblée nationale, il y a de quoi être particulièrement inquiet, mais on en reparlera dans cette émission. Dernier invité de notre temps Quasar Hans hier sur Radio G, c'est un sénateur de l'Hérault qui nous rejoint maintenant. Hussein Bourgi, bonjour.
Oui, bonsoir.
Alors, on rappelle, nous nous connaissons, on va pas faire semblant, on va utiliser le tutoiement, mais ça n'a pas d'importance parce que je t'ai demandé de nous rejoindre ce soir parce que tu as porté devant le Sénat aujourd'hui donc un texte qui était une proposition de loi que tu as pensé, rédigé et préparé et qui a été plutôt voté hier, hein, très exactement, je me trompe, qui était une proposition de loi qui visait à reconnaître la responsabilité de la France dans la discrimination dont ont été victimes les personnes homosexuelles de 1945 à 1982. Est-ce que tu peux nous rappeler la genèse de ton projet de loi très exactement ?
Effectivement, c'est une proposition de loi que j'ai déposée l'année dernière auprès du Sénat à l'occasion du 80e anniversaire de la promulgation de la loi du maréchal Pétain, qui est la première loi qui a été promulguée en France. C'était en août 42 afin de pénaliser l'homosexualité en France. Donc cette loi est restée en vigueur d'août 42 jusqu'en août 82, jusqu'à l'élection de François Mitterrand et l'arrivée de Robert Badinter au ministère de la Justice. Et donc, un député socialiste, Raymond Fournier, a déposé une proposition de loi en 82 pour abroger la loi de Vichy. Entre 1942 et 1982, donc se sont écoulés 40 ans, pendant lesquels les homosexuels étaient donc inquiétés, condamnés en raison de leur homosexualité. Mais il se trouve qu'en 1960, c'est-à-dire après la libération, car je le rappelle, le régime de Vichy a pris fin en 1945, donc 15 ans plus tard, un député gaulliste de Moselle, Paul Mirguet, avait déposé un amendement qui consistait à sanctionner l'homosexualité lorsqu'il y avait outrage public à la pudeur en doublant les peines, considérant qu'il fallait lutter contre l'homosexualité sous toutes ses formes parce qu'elle était un fléau social comme l'alcoolisme, la prostitution, la tuberculose et le tabagisme. Donc, du coup, première loi 42, deuxième amendement de Mirguet 60, donc ce sont ces deux textes de loi qui ont permis de poursuivre et de condamner entre 50 000 et 60 000 hommes et quelques centaines de femmes en France pendant toute cette période. Donc, abrogation de ces pénalisations en 1980 pour l'amendement Mirguet et 82 pour la loi de Vichy. En 2022, l'année dernière, c'était le 40e anniversaire de la dépénalisation de l'homosexualité en France. Et donc, à l'occasion d'un certain nombre d'articles parus dans Le Monde sous la plume d'Ariane Chemin, à l'occasion d'un documentaire qui a été diffusé sur La 5, j'ai revu un certain nombre de témoins de l'époque, dont Michel Chaumara, qui lui avait été interpellé dans un bar parisien qui s'appelle le Manhattan en 1977 et qui avait été condamné justement, et qui témoignait en disant « j'ai 74 ans, toutes celles et tous ceux qui ont été condamnés à l'époque meurent les uns après les autres, nous sommes les derniers survivants et pour l'instant la France n'a jamais reconnu sa responsabilité ». Donc effectivement ça m'avait interpellé parce que je me suis dit « mais il y a d'autres pays voisins comme l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada » qui se sont dotés de lois similaires, pourquoi pas la France ? Et donc c'est ainsi que j'ai rédigé une proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de la France et à verser une réparation pour les hommes et les femmes qui ont été injustement interpellé et condamné pendant 40 ans en France.
Et tu avais été plus loin dans la proposition de loi que tu as rédigée. C'était, il y avait un pan aussi sur pour le code pénal, l'ajout d'un critère. Lequel ?
Sur le code pénal, effectivement, j'avais proposé trois dispositions. La première, c'est la reconnaissance par la France de sa responsabilité. La deuxième, la réparation pour les condamnés. Et la troisième chose, la création d'une infraction visant à faire condamner toute personne qui contesterait ou qui nierait l'existence de la déportation des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on s'est rendu compte à une époque récente, puisque c'était en 2012, qu'il y avait encore des gens qui, malgré toutes les études scientifiques, tous les travaux historiques, toutes les expositions et la reconnaissance par la Fondation de la mémoire de la déportation, par le mémorial de la Shoah, tout le monde reconnaît aujourd'hui en France que des homosexuels ont été arrêtés et déportés pendant la Seconde Guerre mondiale et beaucoup d'entre eux portaient le triangle rose. Et en 2012, c'est un député qui s'appelle Christian Van Est, que certains connaissent, qui avait indiqué que la déportation des homosexuels était une légende. Des associations avaient porté plainte contre lui afin qu'il soit condamné pour révisionnisme ou négationnisme. Malheureusement, il a été relaxé. Et donc, plus récemment, en 2022, à l'occasion de la campagne des élections présidentielles, cette fois-ci, c'est Éric Zemmour qui a tenu les mêmes propos. Et actuellement, il y a un certain nombre d'associations, 6, je crois, oui, qui ont porté plainte et qui poursuivent Éric Zemmour devant la justice. Et je ne voulais pas qu'Éric Zemmour, et je ne souhaite pas qu'Éric Zemmour soit relaxé. Et c'est la raison pour laquelle j'espère vivement qu'il sera condamné. Mais en tout cas de cause, il m'a semblé nécessaire et utile de pouvoir venir compléter l'arsenal pénal en prévoyant clairement une infraction de pénalisation de tout propos révisionniste ou négationniste. Bon, naturellement, si ça avait été voté, ça ne se serait pas appliqué à Éric Zemmour, non, puisqu'effectivement, c'est la loi qui était en vigueur au moment où les propos ont été tenus qui s'applique.
Il n'y a pas de rétroactivité. Donc, c'est ce
voilà, il n'y a pas de rétroactivité. Cette nouvelle loi ne concernerait que les
futurs
auteurs de propos révisionnistes ou négationnistes.
Donc hier, le Sénat a adopté. Mais il a adopté quoi exactement? Parce que problème.
Le Sénat a adopté à l'unanimité l'article premier qui reconnaît la responsabilité de la France dans les traitements injustes qu'ont subi les homosexuels entre 1945 et 1982. Et donc, le Sénat a écarté la période de 42 à 45. Première chose. Deuxième chose, le Sénat a refusé de prévoir la réparation, considérant que beaucoup sont décédés, que ce n'est pas dans la philosophie française, qu'il y avait peut-être des risques de prescription pour les faits, les condamnations qui ont eu lieu il y a plus de 30 ans. Bref, donc là aussi, motif de désaccord. Et enfin, la troisième chose, le Sénat a considéré qu'il ne fallait pas voter un nouvel arsenal législatif et un nouvel amendement dans le Code pénal afin de punir celles et ceux qui contesteraient ou qui nieraient la déportation pour motif d'homosexualité, et qu'il fallait plutôt faire confiance à la justice et attendre l'issue du procès d'Éric Zemmour.
Est-ce que tu es déçu de ces manquements de rendez-vous là avec le fait d'écarter les deux autres dispositions?
Oui, bien sûr que je suis déçu, parce que je pense qu'on aurait dû être assez cohérent avec nous-mêmes. Aujourd'hui, quand quelqu'un subit un préjudice, quand quelqu'un se fait casser sa voiture, par exemple, ou quand quelqu'un se fait agresser, il porte plainte, il va devant la justice. La première question que la justice, à laquelle la justice doit répondre, c'est est-ce que la personne qui est prévenue, donc qui est suspectée, qui est mise en cause, est coupable ou pas? C'est la première question à laquelle il faut répondre. Dès lors qu'on regarde des preuves, des faisceaux d'indices, la justice retient la culpabilité de quelqu'un. La deuxième question à laquelle elle doit répondre, comment on évalue le préjudice et comment on le répare? Donc, ça veut dire quelqu'un qui s'est fait casser sa voiture, porte plainte, arrive devant la justice. Dès lors qu'on a identifié celui qui a cassé la voiture, dès lors qu'on a les devis pour mesurer et quantifier le préjudice, la justice se prononce sur la culpabilité et puis dit à la personne, monsieur ou madame, vous avez cassé cette voiture, ça a représenté un préjudice de temps, il vous appartient de le réparer.
C'est ce qu'on appelle les intérêts civils, voilà.
Voilà, c'est ce qu'on appelle les intérêts civils, c'est quelque chose qui est assez cohérent dans le droit français, et c'est la raison pour laquelle je considérais que reconnaître la responsabilité de la France était un premier pas, c'était un acte fort, mais qu'il fallait aller au bout de cette logique et dire, mais puisque l'État français a été responsable de ça pendant 40 ans, il faut que l'État français répare ce qu'il a infligé à d'autres, ses peines de prison, ses peines d'amende, etc. Et en l'occurrence, c'est là où la droite sénatoriale, qui est majoritaire, a refusé de me suivre jusqu'au bout du raisonnement. Mais ce n'est que partie remise, puisque le texte va arriver à l'Assemblée nationale et il aura l'occasion d'être à nouveau amendé et enrichi par les députés.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre déception aussi de ta part en tant que porteur, créateur de cette proposition de loi dite PPL?
Non, pas de. En fait, quand on dépose une proposition de loi, il faut toujours s'attendre à ce que la proposition de loi soit amendée, soit re-rédigée, etc. Et il faut toujours s'y attendre dès lors qu'on appartient à un groupe politique minoritaire. Moi, j'appartiens au groupe socialiste, la gauche est minoritaire au Sénat. Donc, lorsqu'on dépose une proposition de loi, on s'attend toujours et on sait toujours qu'on va passer sous les fourches caudines de la majorité sénatoriale de droite. Et donc, c'est un exercice auquel on consent. Donc, il n'y a pas de problème d'orgueil, de fierté. mal placée. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la proposition de loi soit la plus juste, soit la plus fidèle à ce que moi j'avais rédigé au début. Là, ils ont respecté en partie ce que je souhaitais faire, mais le texte va aller à l'Assemblée nationale, il sera amendé là-bas, et je pense que dans le jeu de la navette parlementaire entre la première lecture au Sénat, la première lecture à l'Assemblée, puis ensuite la navette parlementaire, la deuxième lecture, la commission mixte paritaire, je pense que le texte et la proposition de loi va prendre un peu plus forme, et à l'arrivée, on va aboutir à quelque chose qui correspond davantage à ce que je souhaitais, à ce que j'avais rédigé au début, mais ça c'est au fil de la navette parlementaire que ça va être rétabli et restauré.
Est-ce que tous les soutiens ont été là finalement ou peut-être pas assez ?
Alors, moi, au niveau objectivement, dans ce travail-là, je tiens vraiment à dire que si cette initiative a pu prospérer et si ce texte est allé jusqu'à son terme, c'est en premier grâce aux victimes. Si jamais il n'y avait pas de victimes pour témoigner, si jamais il n'y avait pas des hommes et des femmes, mais surtout des hommes en l'occurrence, qui ont accepté de sortir de l'anonymat pour incarner cette histoire avec leur vécu, avec leur histoire, avec leurs sentiments, avec leurs blessures, avec leur colère. Cette histoire-là, en fait, aurait pu rester une histoire complètement fictive. Et donc, le premier mérite, on revient aux victimes, et je pense en particulier à Michel Chaumara et à Bernard Bousset, qui ont accepté à 74 ans et un peu plus et un peu moins de témoigner l'année dernière et de répondre à tous les journalistes. Le deuxième mérite, il revient aux universitaires, aux sociologues, aux historiens, parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu Florence Camagne, Antoine Nidier, Régis Schlagdenhoffen, Romain Jaouen, Chérine Berzig, Sébastien Landrieux, s'il n'y avait pas eu Denis Quinqueton pour commettre un livre l'année dernière avec la Fondation Jean Jaurès pour rappeler la jeunesse de cette histoire, finalement, j'aurais pas trouvé toute la matière nécessaire pour m'appuyer sur ces travaux, sur ces informations, pour rédiger la proposition de loi. Et ensuite, il a fallu, on va dire, c'est un choix politique que le groupe socialiste au Sénat a fait, parce que nous avons 4 heures, c'est une niche parlementaire qui nous appartient, donc 4 heures tous les un mois et demi pour inscrire 2 propositions de loi, chacune devant occuper les travaux pendant 2 heures maxi. Et donc naturellement, comme on est 64 au groupe socialiste, il y a plusieurs dizaines de propositions de loi, et à chaque fois, nous votons de manière confidentielle et anonyme au sein du groupe pour choisir les 2 propositions de loi qui méritent d'être inscrites à l'ordre du jour. Et donc mes collègues et certains même qui avaient eux-mêmes rédigé des propositions de loi, donc qui étaient en concurrence avec la mienne, ont fait le choix de les retirer pour me permettre, et ont soutenu ma proposition de loi pour permettre tout simplement à ma proposition de loi d'être parmi les 2 à inscrire lors de notre niche d'hier. Donc, et puis naturellement, la gauche a porté cette proposition de loi parce que nous étions 103 sénateurs à l'avoir co-signé, des sénateurs écologistes, des sénateurs communistes, socialistes, tous les sénateurs de ces 3 groupes. Il y avait ensuite des radicaux de gauche, des radicaux valoisiens, quelques sénateurs macronistes, un sénateur républicain, des centristes. Donc finalement, c'est une proposition de loi qui a eu le mérite de rassembler la gauche, mais de dépasser les rangs et de la gauche pour aller justement trouver des points d'appui dans d'autres groupes politiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au moment du vote final hier, il y a eu une unanimité au Sénat. Donc, c'est tous les sénateurs, il n'y en a pas un qui a manqué à l'appel, qui ont tous voté la proposition de loi. Alors, si j'ai un regret à émettre, bien sûr, c'est
Il nous reste 1 minute.
Les dispositions que j'avais proposées n'ont pas été retenues, à savoir la réparation et la pénalisation du révisionnisme. Après, moi, je déplore et je m'étonne que les associations, et en particulier les associations LGBT, ne se soient pas davantage manifestées, ne se soient pas davantage mobilisées. J'ai eu le sentiment, à un moment donné, qu'ils considéraient que c'était acquis, que ça passerait comme une lettre à la poste. Et j'ai eu le sentiment à un moment donné aussi que cette histoire était tellement ancienne qu'elle ne les intéressait pas. Et je trouve ça fort dommage parce qu'effectivement, les personnes dont on parle sont pour beaucoup décédées sans laisser de descendance, sans laisser d'enfants. Donc s'il n'y a pas une solidarité communautaire, si ce ne sont pas les personnes LGBT d'aujourd'hui qui vont défendre la mémoire, la dignité, l'honorabilité de celles et ceux qui ont été condamnés et qui sont morts aujourd'hui, qui le fera ?
On est d'accord.
Donc, moi, je ne comprends pas. Je m'étonne de cette relative discrétion des associations LGBT.
Il faudra que ça change, effectivement. Et la suite, donc, avec la navette parlementaire. Merci beaucoup, Hussein Bourgi, d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces explications. Et merci pour le travail. Bye. Ben voilà, c'est avec Hussein que nous nous quittons. Vous voyez, comme quoi c'est très, très, très dense et très intéressant. La suite, c'est le travail législatif et la mobilisation des personnes concernées. Allez, c'est la fin de ce Quasar en Zière. On se donne rendez-vous dans 15 jours. On vous embrasse et on vous souhaite vraiment une très, très belle soirée sur Radio G. Et puis donc, notre rendez-vous sur 101.5 dans 15 jours. Ciao, ciao.
Radio G. 101.5 FM.